Radio Cité Genève, Viviane De Witt,
la bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui a un métier très particulier. On va en parler. Bonjour Catherine, c'est Catherine Valder, que beaucoup de gens connaissent ici à Genève. Bonjour ma Catherine.
Bonjour Viviane, bonjour Radio Cité, ça me fait plaisir d'être invitée aujourd'hui.
Eh bien, on est ravis de te recevoir. Tu as un métier, je viens de le dire, très particulier. Tu es comportementaliste d'animaux. On va développer ça tout à l'heure. On va expliquer d'abord, dans un tout premier temps, ce que c'est. Dis-moi.
Alors, en fait, je suis éducateur canin. On pourrait dire éducatrice, puisque maintenant, on peut parler au féminin. Et je travaille plus particulièrement sur le comportement. Pourquoi ? Parce que sans le comportement de l'animal, en fait, on n'a pas grand chose à travailler. Dès que on commence l'éducation d'un animal, enfin éducation, à lui expliquer toutes les tâches qu'on attend de lui aujourd'hui, et surtout dans un canton comme Genève, où il y a énormément de restrictions pour l'animal, automatiquement, il y a des comportements qui dérangent, donc tous les éducateurs font beaucoup de comportements.
Alors, je vais te poser la question rituelle dans cette émission. Comment est-ce que tout ça a commencé ? Quelle petite fille étais-tu, Catherine ?
Alors, je pense que ça a commencé d'une manière indépendante de ma volonté, parce que j'avais juste dit une fois que j'avais envie d'avoir un chien, et j'avais été faire un séjour en Allemagne quand j'avais 15 ans, et quand je suis rentrée, il y avait un chien à la maison.
C'était quelle race de chien ?
C'était un croisé. On n'a jamais su exactement les différentes races issues du croisement, et qui a vécu quand même 17 ans, ce qui est énorme. Et je me suis rendu compte, quand j'étais jeune, que de prendre un chien, donc comme j'avais 15 ans, en fait, c'est mes parents qui s'en sont quand même occupés, quand j'étais pas là, quand je pouvais pas, qu'il y avait une énorme responsabilité, donc j'ai dit plus jamais.
Alors, attends. D'abord, quelle petite fille étais-tu ? Même si tu, à 15 ans déjà, tu n'étais plus une petite fille, tu étais une adolescente. Alors tu étais quelle petite fille quand tu étais une petite fille ?
Alors à l'époque...
Tu as été élevée à Genève ?
En ville. Et maintenant que tu m'y fais penser, en fait, c'était assez strict. Et peut-être qu'on a du coup une certaine fermeté naturelle envers les animaux, parce que nous-mêmes, on nous a enseigné une certaine correction, un certain respect,
et que donc ça. Donc les parents étaient stricts.
Ils étaient stricts, ils étaient très généreux, mais ils étaient stricts, fermes, mais respectueux. Et finalement, on se rend compte qu'avec les animaux, il faut aussi énormément de respect, mais il faut une certaine fermeté.
C'est assez amusant de penser que ton éducation a été le modèle pour l'éducation des animaux. On va y revenir tout à l'heure. Je veux te demander encore, quel genre d'études as-tu faites ? Parce que on ne s'imagine pas comportementaliste d'animaux. Est-ce qu'il faut faire des études pour ça ?
Alors,
les études que tu as faites en général, et puis
j'ai passé une simple maturité. Après, je me suis lancée dans des études plus linguistiques, avec de l'anglais, de l'italien. Donc comme ça, j'avais trois bonnes langues que je pouvais pratiquer régulièrement. Et je reconnais que l'anglais me sert énormément au niveau de l'éducation des animaux, parce que les clients ont une langue en commun, qu'on peut avoir tous en commun, qui est l'anglais. Et puis après, j'étais partie dans le secrétariat de direction, parce que là, on savait qu'il y avait toujours du travail.
Mais ça me convenait. C'était loin des animaux, ça.
Oui, mais ça me convenait pas du tout. Et il se trouve que je me suis fait engager comme secrétaire et informaticienne, justement chez Dupont de Nemours, qui est tout près d'ici. Et j'ai jamais fait de secrétariat là-bas. Je suis passée directement à l'informatique, qui est quand même mon travail aussi à mi-temps. Et mon autre travail, qui me prend en fait plus qu'un mi-temps et qui est une passion aussi, qui est éducateur canin, ça m'est venu parce que quand j'ai dû m'occuper de mon premier chien à moi, donc là, j'étais mariée, j'étais avec un homme absolument fabuleux qui m'a laissé la possibilité de prendre un animal en me disant simplement, mais écoute, on nous propose un chien, mais allons voir ce chiot, et puis s'il nous convient, on a la possibilité, vu qu'on a une maison, d'avoir un chien. Et quand je me suis retrouvée avec un chien, j'étais complètement démunie pour pouvoir l'éduquer, lui donner des bonnes bases Et c'est comme ça que j'ai finalement, en implorant plusieurs personnes atterries à la Société Canine Genève, que je remercierai jamais assez de m'avoir aidé à m'occuper du premier chien. Et après, j'ai eu aussi envie de transmettre ce que j'avais appris parce que c'était un gros problème.
C'est drôle parce que tu parles de ton chien comme les gens parlent quand ils ont un bébé. Tout d'un coup, ils sont démunis, ils se mettent à lire tous les guides.
Oui,
c'est ça. Ils se mettent à se renseigner à toutes les portes, à demander finalement de l'aide à ceux qui sont passés par là. Parce qu'en fait, ce sont des expériences nouvelles. Mais c'est drôle, ça m'était jamais venu à l'idée qu'on pouvait avoir ce genre de problème pour un chien.
Bah mon chien, et finalement, on s'en était pas aperçu tout de suite, mais le croisement, c'était entre un flat coat, bah là, ça fait 25-26 kilos, mais le mâle, c'était un Terre-Neuve de 80 kilos.
Ah oui.
Donc, on s'est retrouvé avec un mâle.
Pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est un genre Golden Retriever, mais avec la tête plus allongée, noire et avec des poils plats.
Voilà, plus élancé et plus vif.
C'est un chien de chasse.
Un chien de chasse.
Voilà.
Voilà, qui rapporte le gibier.
Qui rapporte le gibier. Un retriever, exactement.
Et donc, je me suis retrouvée avec un chien de 50 kilos.
Ah oui, c'est ennuyeux.
Et avec mon premier cours, à l'âge de 6 mois pour le chien, qui était donc plus un chiot, qui était un ado, et qui me sautait dessus. Et Sylvie Ménétret, qui est la personne qui m'a reçue à la Société Canine Genève, elle s'en souvient encore, on en parlait hier, puisqu'on s'est revus, que mon chien, quand je suis arrivée là-bas, il me sautait dessus, il mettait les deux pattes sur mes épaules. Et sinon, quand il me tirait, je pouvais plus le retenir. Donc, j'ai vraiment eu les problèmes qu'on rencontre.
En fait, c'était le chien qui te promenait, Catherine.
Oui. Oui, mais c'était très difficile parce que c'était un chien que j'adorais, mais qui m'empêchait de vivre une vie agréable avec lui à cause de soucis majeurs, finalement.
Alors écoute, ça tombe très bien, tu as choisi comme intermède musical Calogero, un jour au mauvais moment. On l'écoute.
Jamais ça.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans La bouteille à moitié pleine avec Catherine Valder. Catherine Valder qui est comportementaliste d'animaux et qui surtout éduque les chiens. Alors Catherine, tu nous as expliqué que le besoin s'en était fait sentir quand tu étais jeune parce que tu avais eu un chien qui au fond avait pris le lead sur toi. C'était un peu ça.
Voilà, c'est-à-dire que j'étais complètement démunie quand il est arrivé à la maison. Tant que c'était un chiot, ben les choses se passaient relativement bien. Il faisait 10, 15, 20 kilos, mais quand il en a fait 50 et qu'il m'entraînait là où lui voulait et qu'il vivait sa vie...
Vivait sa vie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faisait?
Ben, il allait un peu où il voulait, et moi, avec mes 60 kilos et lui, ses 50 kilos, on avait un rapport de force qui était totalement... Comment est-ce qu'on pourrait dire
Inégal, en fait.
Voilà.
Inégal,
ouais. Et on sait maintenant qu'en fait, si on veut vraiment pouvoir retenir un chien, d'après les études qui ont été faites, il faudrait peser à peu près 4 fois plus que l'animal pour pouvoir le retenir sans problème. Donc s'il voulait vraiment aller quelque part, s'il tirait d'un coup sec, moi je partais avec. Donc c'était vraiment dangereux. Et c'était pas agréable. Donc les promenades, finalement, elles étaient pas agréables. À la maison, ben, c'était sympathique, mais ça s'arrêtait là. Et une relation dans un canton comme Genève, où on doit garder les chiens en laisse en ville, où on doit les garder en laisse maintenant dans certains endroits entre le 1er avril et le 14 juillet, ça devient difficile de ne pas se pencher sur certaines questions fondamentales que n'ont pas les cantons beaucoup plus...
Campagnards, finalement.
Voilà.
Mais il y a quand même beaucoup d'endroits qui sont de la campagne autour de Genève et je considère quand même que les Genevois, enfin ou les Suisses, n'aiment pas les chiens. Ils ont peur des chiens. Il y a un très curieux rapport aux chiens.
Oui.
Tu te souviens de l'époque où on faisait mettre des muselières même à des petits chiots?
Ça a duré 3 mois.
Oui, ça a duré 3 mois, mais je pense que c'est 3 mois de trop
le
quand même.
Le ridicule a presque tué, donc en tout cas, ça a tué le bébé dans l'œuf, ça a duré 3 mois.
Oui, mais enfin, il y avait des petites vieilles dames qui promenaient des chiens qui étaient... Voilà, qui étaient des petites choses aucune nocivité, on va dire.
Alors, les petits chiens, pour moi, ils sont pas...
Oui, non, je n'ai pas dit que les petits chiens n'étaient pas nocifs, parce que je pense qu'ils aboient de façon très désagréable et qu'ils ont des petites dents très pointues.
Et qu'ils ne sont pas beaucoup éduqués, justement, parce que comme c'est des petits chiens, c'est pas grave. Les morsures, c'est pas grave. Mais en attendant, le traumatisme pour la personne qui est mordue, elle est quand même là.
Oui, voilà. Tout à fait. Mais enfin, je sais pas, j'ai jamais entendu parler autant de gens mordus qu'en Suisse, alors que tout le monde se protège des chiens d'une façon extraordinaire.
Bah, il y a eu l'histoire de ce petit enfant à Zurich qui a été tué par des
molosses,
pitbulls.
Oui.
Et du coup, il y a une personne qui a rebondi pour faire
une
loi pour obliger les gens à suivre des cours théoriques, des cours pratiques, ce qu'on a fait sur le canton de Genève, faire passer un test de maîtrise et de comportement, qui, si les cours ont été à tous abrogés, par contre, le TMC, le test de maîtrise et de comportement, est resté. Donc c'est la spécificité qu'on a à Genève. On a une liste de chiens interdits sur le canton de Genève, mais en plus de ça, le TMC a passé pour les chiens de plus de 25 kilos et 56 centimètres au garrot. Reste, lui...
Par exemple, un golden fait partie de...
Oui.
Mon Dieu.
Oui, le Flatcoat, justement, est le chien qui est juste entre les deux.
Je ne correspond pas aux critères de la loi. Il va falloir que tu m'enroules dans tes cours. Je ne sais pas à quelle heure.
Alors, c'est pas non plus un test qui est extraordinaire, mais ça oblige le propriétaire à être responsabilisé et à être responsable et à travailler un minimum avec son animal pour que son animal puisse être... Alors, j'aime pas dire correctement dressé, mais en accord avec ce qu'on attend d'un animal dans un canton comme Genève, qui, soit dit en passant, est très restrictif parce que on interdit finalement aux animaux en général, donc aux chiens, on leur interdit de se reproduire, on leur interdit de manger quand ils veulent, on leur interdit de se promener quand ils veulent, on leur interdit de jouer quand ils ont envie. Finalement, ils ont quoi comme liberté? Ben, je laisse la réponse à l'imagination des gens, mais je vous dis tout de suite que la liste, elle est pas très grande.
Non. Alors, comment fais-tu pour justement les éduquer. Au départ, tu les prends à quel âge? Moi, c'est ça qui m'intéresse.
Le jour où le propriétaire prend le chien...
Mais c'est 2 mois.
J'essaye, voilà, 8 semaines. J'essaye, dans la mesure du possible, où la demande est là, de prendre la personne avec son chien le plus rapidement possible. Et je suis même capable de travailler le soir tard ou autre pour pouvoir les voir tout de suite, pour mettre en place quelques plans comme de faire dormir l'animal dans une cage, non pas forcément une cage fermée, mais une cage qui devient un endroit sécuritaire pour l'animal. Il faut bien se dire qu'une cage, c'est la sécurité primordiale pour un animal, pour éviter qu'il mange n'importe quoi, qu'il se fasse électrocuter, et puis après, par la suite, en voiture.
Mais tu n'as pas protégé. Un peu l'impression que c'est comme le parc qu'on avait autrefois pour les bébés dans lesquels on ne les met plus maintenant?
C'est ce que je dis aux gens. Je dis, mais attendez, vous arrivez avec votre bébé de la maternité. Vous le posez à l'entrée et puis va jouer, mon petit. Puis les gens, ils sont là. Ah ben non, je le mets dans un couffin ou dans son lit. Je dis oui, puis le lit, il est comment? Ben, il y a des barreaux. Je dis, ben voilà, le chien, c'est la même chose. Et c'est pour le protéger. Hein. Ça, par contre, il faut expliquer au chien, comme il n'a pas vécu les deux premiers mois de cette manière-là, que ça peut être quelque chose de très agréable. Et ça se travaille le jour où on reçoit le chien.
Qu'est-ce que tu nous fais écouter maintenant?
Ah, Ennio Morricone. Je vibre à chaque fois que j'entends cette mélodie. C'est un grand compositeur qui arrivait à faire vibrer le public par la musique, qu'il arrivait à composer pour les...
Qu'est-ce qu'on écoute,
pardon,
alors?
Gabriel Zoboé.
Cité Genève. Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans La bouteille à moitié pleine avec Catherine Valder. Catherine Valder qui a un métier très particulier puisqu'elle est comportementaliste d'animaux et en particulier elle fait de l'éducation canine. Alors Catherine, on a vu tout à l'heure que l'idéal c'est de t'appeler au fond ou de te contacter dès qu'on a un bébé chiot. Puisqu'on va parler des chiens, c'est quand même ce qui est le plus pratique pour nos auditeurs, parce que si on leur racontait pour les serpents ou pour les lions, ça le ferait pas. Donc,
je suis pas spécialiste du tout.
Non. Et alors, on va donc imaginer le petit bébé de 2 mois arrive et tu nous as expliqué que c'est comme un bébé qu'on doit mettre dans son berceau ou dans son couffin, donc il faut le mettre dans une cage. Ouais. Et après, le next step, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait après? Ou qu'est-ce qu'on ne doit pas te faire?
Lui apprendre les règles de notre société.
Alors les règles de société, c'est la propreté.
On saute pas sur tout le monde, on fait pas ses besoins n'importe où, on mordit pas tout. Et en fait, on arrive tout de suite dans un négatif qui est...
Finalement, il n'y a que des interdits pour ce malheureux.
C'est ce que je disais déjà avant. On bourre l'animal d'interdits. ce qu'il y a de génial, c'est que c'est quand même dans les cours que j'ai suivis pour devenir moniteur d'éducation canine que j'ai appris le positif, que j'ai retranscrit après.
Alors c'est quoi le positif? On a hâte de le savoir, parce que pour le moment, travail, le malheureux, il a que « tu fais pas ci, tu fais pas ça ».
En fait, voilà.
Et alors comment tu lui interdis?
Ce qu'il faut faire,
je ne lui interdis pas,
je lui explique que faire.
D'accord.
Voilà, le chiot qui saute, oui. Je vais lui dire en bas, en mettant ma main vers son museau, ce qui fait qu'il ne va même pas probablement pouvoir sauter, parce que s'il saute, il tape contre ma main. Donc, il va avoir tendance à essayer de sauter, à se retenir. Et dès qu'il va prendre l'habitude de se retenir, à chaque fois, je vais renforcer avec de la nourriture. La nourriture, c'est quelque chose qui est très fort pour l'animal. Il va se dire, qu'est-ce que je peux faire pour en ravoir? Et il va très vite comprendre que s'il ne saute pas, alors il va être récompensé. Petit à petit, on va passer à une récompense un petit peu plus, comment est-ce qu'on pourrait dire, un peu plus légère pour lui, c'est-à-dire qu'on va utiliser plus la voix, éventuellement la caresse, mais au début, c'est la nourriture, c'est ce qui marche le mieux et le plus rapidement possible. Parce que des fois, en une minute ou deux...
Un petit morceau de viande
Cervelas, enfin, tout ce qui sent fort, le lard, le saucisson, mais des fois, c'est pas très pratique à utiliser. Le cervelas, la saucisse, c'est vraiment ce qu'il y a de plus génial, de plus pratique. Et le chiot apprend très rapidement. Et j'essaie
alors, de... l'empêches de sauter, Et comment fais-tu pour les besoins? Alors ça, c'est le plus compliqué quand même.
Eh ben, justement, l'avantage de pouvoir le laisser en cage quand on s'en occupe pas, comme de laisser le bébé dans son parc ou comme ça quand on s'en occupe pas, c'est que quand on s'en occupe, on va le sortir, on va essayer de l'emmener tout de suite au premier coin d'herbe et on va ne plus bouger de là. Jusqu'à ce que le chien ait fait ses besoins. Or, on sait qu'à 2 mois, le chiot, dès qu'il est stimulé, il va faire ses besoins. Et là, de nouveau, nourriture. Donc, le chiot se rend compte, moi, pipi, dans l'herbe juste en bas, nourriture. Alors que si c'est dans la cage, ben, rien du tout, voire même le maître, il tire une de ses têtes. Donc, parce que les chiens savent
oui,
quand même
détecter. Oui, ils
connaissent
les physionomies, absolument.
Ils connaissent les physionomies. Donc, ils se rendent tout de suite compte, qu'est-ce qu'ils payent? Et qu'est-ce qui ne paye pas? Et comme le chien essaye de reproduire tous les comportements qui payent, automatiquement, il va essayer de reproduire le comportement « je fais pipi dans l'herbe et je suis récompensé ». Donc souvent, un chien est propre. J'ai une amie qui m'a dit qu'elle a pris un chiot la semaine dernière. Il est déjà propre. Mais bravo. Alors, l'éleveuse.
Oui, tu es d'accord quand même qu'il y a des races de chiens plus intelligentes que d'autres?
Alors, je ne répondrai pas à cette question-là parce que ce n'est pas la race, à mon avis, c'est l'individu. Et à toutes les personnes qui me disent « mais vous avez vu comme il est con, mon chien ?» Je leur réponds « n'oubliez pas une chose. Est-ce que vous vous souvenez quand il y a eu le tsunami en Thaïlande? Qui a survécu et qui est mort ?»
Non.
Bon, ben les humains, ils sont morts, noyés, parce qu'ils ont été prendre des photos, puis parce qu'ils ne connaissent pas en fait la base de la vie. Les animaux, ils ont survécu parce qu'eux, ils se sont tous cassés. Donc, est-ce que l'intelligence, ce n'est pas de savoir survivre?
Une certaine forme d'instinct, oui.
Bah oui, mais en fait, pour moi, l'intelligence, c'est de survivre, c'est de vivre le mieux possible. Je trouve qu'on a beaucoup à apprendre des animaux en général.
Alors, on va écouter Florent Pagny.
Ah oui, n'importe quoi.
Dis-moi, pourquoi t'es comme ça? Pourquoi ça va pas? Pourquoi t'essayes pas? Pourquoi tu veux pas? Dis-moi, pourquoi tu souris? Et pourquoi tu pleures? Pourquoi t'as envie? Et pourquoi t'as peur? Dis-moi, pourquoi tu dis ça? Pourquoi t'y crois pas? Pourquoi t'y crois plus? Pourquoi tu sais plus? Tu vois, tu retrouves plus ta rue. T'as paumé l'étage, je crois bien que t'es perdu. Pas du nage, et là tu crois que je vais rester sans rien dire. Ah oui, tu crois que je vais rester planté là à te voir partir dans.
Cité Genève.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec Catherine Valder. Catherine Valder qui nous entretient de l'éducation des chiens ce matin. On apprend beaucoup de choses. On apprend surtout qu'au fond, un petit chiot, c'est comme un bébé. Hein,
oui.
En gros.
Eh ben,
alors,
d'ailleurs,
donc on a vu qu'il fallait qu'il ait une cage. On a vu comment le rendre propre. On a vu comment procéder. On a vu surtout que les récompenses, il ne faut pas les donner à tort et à travers, que la nourriture, ça doit être donné à bon escient.
Ça récompense un comportement.
Donc, pas donner n'importe comment et n'importe quand.
Voilà. Et l'autre jour, on était avec une amie au bord du lac et il y avait des cygnes qui voulaient absolument manger ce qu'on avait. Mais ils nous attaquaient presque. Hein.
Ah, mais les cygnes, c'est méchant.
Le problème, c'est que pour s'en défaire, qu'est-ce que font les gens? Eh bien, ils jettent la nourriture dans l'eau. Donc, le cygne va prendre la nourriture. Donc, il est récompensé pour le comportement qu'il vient d'avoir à l'instant d'avant. Donc, si le cygne, en fait, il commence à feuler et puis à ouvrir grand son bec et puis à essayer de sortir de l'eau pour venir nous attaquer,
oui.
Nous, on le récompense pour ce comportement en lui jetant de la nourriture dans l'eau qu'il va prendre.
Effectivement.
Même chose avec un chien s'il n'est pas récompensé au bon moment.
Alors, comment traites-tu les comportements de chien? On va imaginer que le bébé a grandi, qu'il a grandi de façon plus ou moins satisfaisante, suivant le maître qui a su ou qui n'a pas su appliquer tes préceptes. Comment ensuite, lorsqu'il y a certains comportements qu'il faut corriger, parce que le chien est trop agité ou le chien est, je ne sais pas, enfin, comment fais-tu?
Alors, j'ai remarqué que si on se cantonne à l'éducation, on peut passer des heures et des heures et des heures à essayer d'apprendre certaines choses à un animal et lui apprendre, par exemple, à ne pas avoir peur. Ben, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, justement parce qu'on peut renforcer, sans s'en rendre compte, des comportements qu'on veut pas. Et je suis en train de me spécialiser dans tous les élixirs de fleurs en général, mais les fleurs de Bac en particulier, parce que j'ai constaté dans certains cas qu'en 15 secondes chrono, je pouvais ôter certaines peurs à certains chiens.
Alors explique-nous davantage, parce que ça c'est étrange. Et...
Alors je regarde toujours beaucoup l'animal, je regarde toujours beaucoup comment il réagit, et quand je vois qu'il n'est pas à l'aise dans certaines situations, je reproduis la situation quelquefois, je vois qu'il réagit toujours de la même manière, je me dis bon là il y a un souci. Donc comme je connais bien les fleurs, j'en sélectionne une qui me semble être la plus précise pour cet événement. Je prends quelques gouttes dans les mains et je caresse le chien. Et dans les cas de peur, dans certains cas, je ne peux même pas le faire. Donc je donne au propriétaire les gouttes, il se frotte les mains, il caresse le chien tranquillement pendant 5, 10 secondes, 15 secondes. Et après, je remets l'animal dans la même situation. Et là, dans certains cas, on voit que le chien a adopté un tout autre comportement. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais un chien qui montait pas les escaliers. C'était devenu un gros problème parce que sa propriétaire avait confié son chien à ses parents pour un week-end et l'ascenseur est tombé en panne. Les parents n'ont pas pu faire monter le chien au deuxième étage. Et heureusement que le voisin du rez-de-chaussée a pu s'occuper du chien, parce qu'il n'est jamais monté les escaliers. Et j'ai trouvé une fleur de Bac, on l'a testée, et du sous-sol de chez moi, il est monté au rez-de-chaussée, après lui avoir administré des fleurs de Bac, alors que c'est un labrador, il y avait des gourmandises à toutes les marches d'escalier, il y avait la maîtresse en haut, il y avait une gamelle en haut, il y avait ma chienne en haut, il avait tout pour monter les escaliers, et il les a montés que 10 secondes après avoir eu les fleurs de Bac.
Donc, ça, c'est miraculeux, Catherine.
Et j'ai des vidéos comme ça sur mon site, educanin.ch, dans l'onglet santé info. On peut voir certaines vidéos où on voit que le chien a peur. Alors, je ne vais pas montrer 4 fois le chien qui a peur, et puis après qu'il n'a plus peur. Je montre une fois, mais je laisse tourner la vidéo, je donne les fleurs de Bac, je laisse tourner la vidéo, je remets le chien dans le même environnement, et là, on voit qu'il a évolué.
Alors en fait, il faut venir te voir quand on démarre une vie avec un chien, j'allais
idéalement,
dire, voilà,
ouais.
avec un bébé. Et puis ensuite, dans le courant de sa vie, s'il a des comportements qui sont pas satisfaisants, il faut d'urgence, ne faut pas les laisser trop longtemps en fait, parce que ça devient des habitudes.
Les émotions, elles sont moins on les gère, plus ça devient des habitudes.
C'est ça.
Des craintes, ça peut même devenir des caractères.
Oui. Donc en fait, il faut vraiment t'alerter, te contacter, et tu à ce moment-là, tu peux prendre le chien en main
le plus rapidement possible.
Tes fleurs de Bac, enfin tes petites. Je me souviens d'une boîte avec je ne sais combien de petites bouteilles dedans.
38.
Combien?
38.
38.
Plus le reste.
C'est assez impressionnant.
Ouais.
Voilà. Et avec ça, et alors comment as-tu testé sur toutes sortes de chiens? Parce que c'est pas évident de savoir quelle fleur de Bac administrer.
Alors j'ai étudié pendant des années, j'ai suivi des cours, j'ai fait des tests pour certains cas en faisant des vidéos pour après pouvoir analyser le comportement de l'animal avant et après. Et maintenant, je pense commencer à avoir un bon panel d'élixirs en général. J'aimerais quand même préciser que ces élixirs ont été à la base créé et développé pour les humains. Donc, j'ai juste déplacé l'utilisation de base qui en avait été faite, conçue à l'origine par le docteur Barr, ensuite par un dénommé Philippe Desroites pour toutes les fleurs et les élixirs contemporains, et puis par Ian White pour les élixirs du Bush. Mais toutes ces personnes-là ont créé à la base ces élixirs pour les humains. Il se trouve qu'on peut les utiliser pour toutes les matières vivantes. Alors les pierres, on n'en voit pas trop l'utilisation, mais par contre, déjà les plantes, on peut les utiliser aussi, mais on se rend pas bien compte de leur utilité. Par contre, sur un animal, quand on voit qu'en 15-20 secondes, l'animal a changé de comportement, et les peurs, c'est vraiment l'émotion la plus flagrante qu'on peut corriger rapidement, c'est juste génial. Et ça se voit beaucoup plus rapidement que sur un humain qui a tout le mental pour couper la rapidité d'action en fait que la fleur pourrait avoir sur lui.
C'est passionnant, je dois dire que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et pour tous les gens qui ont des chiens, qui nous écoutent, je pense qu'ils sont en train de se dire qu'ils sont peut-être passés à côté de quelque chose d'important dans leur vie, qu'ils ont subi des chiens qui étaient peureux ou qui étaient mal élevés ou qui étaient agités et qu'ils auraient pu en changer le comportement assez vite en te connaissant. C'est pour ça que je pense que ça va être très important que tu laisses ton nom, que l'on répète ton site, parce que je crois que c'est utile. L'émission que nous faisons ce matin, elle est vraiment utile, Catherine. C'est pas seulement de faire pénétrer dans un univers différent nos auditeurs, comme je le fais parfois. Là, c'est vraiment quelque chose qui est utile pour eux et qu'ils doivent utiliser. Parce que subir un chien mal élevé, c'est
pour
pas très drôle.
Toute une vie, c'est dur.
C'est pas très drôle.
Ouais. Ouais. Mais ça m'est venu justement, comme on en a parlé, grâce à mon premier chien, mon deuxième chien que j'ai respecté en disant « Ok, si je vois que les choses te conviennent pas comme ça, on va changer. Je n'ai jamais voulu forcer mon animal à faire un sport ou un autre, quelque chose qu'il aimait pas ou qu'il pouvait pas faire parce que physiquement ça lui convenait pas. » Et automatiquement, on rentre dans les émotions. Et mon but premier, c'est que l'homme et l'animal aient une solution, je dirais, instantané à un problème qui leur pourrit la vie, même si c'est depuis longtemps. Et je le répète, mon but, c'est pas de donner 3 cours, 10 cours, ou je ne donne aucun abonnement. Les gens me demandent combien de cours il faut. J'ai dit, mais on regarde entre guillemets un cours, une séance. Ce serait plus correct de dire une séance. Après, je vous donne un mélange de fleurs de Bach. Vous testez ça pendant 3 semaines. Vous essayez de noter le mieux possible toutes les évolutions que vous voyez. Quantifier est très important. Et puis, s'il n'y a plus d'autres soucis, bah pourquoi revenir?
Catherine, est-ce que tu fais aussi du dressage pour la chasse ou pour agility ou
non.
Pour...
non. Non, ma spécialité, c'est... je me suis définie d'ailleurs comme émotionnaliste. J'ai inventé ce terme parce que je pense que c'est celui qui me convient le mieux. Pour moi, je suis émotionnaliste. Je travaille le comportement émotionnel de l'animal pour essayer de le libérer de tout ce qui le gêne, que ce soit difficulté d'apprentissage, agressivité, tout ce qui est les peurs, qui est quand même la base, même des fois, de l'agressivité.
Alors, on va écouter quelque chose qui concerne pas mal de propriétaires de chiens. Chris, la marcheuse.
La marcheuse, ouais.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec Catherine Valder. Catherine Valder, dont nous avons vu qu'elle s'est spécialisée dans l'éducation des chiens. Au départ, elle est comportementaliste d'animaux, mais elle s'appelle aussi émotionnaliste parce qu'en fait, elle joue sur l'émotion des animaux plus que sur le dressage. Et maintenant, Catherine, je voudrais que tu parles d'un personnage qu'on a beaucoup aimé à Genève et bien connu, qui était ton mari.
Alors, pour parler de mon mari, j'aimerais juste dire qu'en fait, il était le président de la commission feu d'artifice des fêtes de Genève, mais qu'il a repris cette présidence après mon père, qui a tenu pendant plus de 30 ans, et qui est quand même la personne qui a créé le feu d'artifice pyromélodique avec Panzera, qui était un grand chimiste créateur de feux d'artifice vers Turin. Et après, René a repris René Gousset, mon mari, parce que j'appelle Catherine Valder Gousset. Et en fait, René, c'était un personnage qui a vécu d'une manière incroyable, si on sait qu'à 16 ans, il était veuf, qu'à 20 ans, il avait perdu un fils jumeau de son autre fils qui, heureusement, lui, a vécu. Qu'il a eu 160 fractures et fissures dans tout le corps suite à un accident de voiture. Il avait été précipité dans les gorges de l'Ardèche. Et il était dans une deux chevaux et il avait la barre de la deux chevaux décapotable dans le visage. Et ils l'ont tenu pour mort. Et avec sa force de caractère, il s'est relevé, il a dit aux pompiers, je suis pas mort. Et du coup, ils se sont occupés de lui tout de suite. Donc c'était quelqu'un qui avait une volonté,
mais un mental extraordinaire.
Un mental, voilà. Il était ingénieur en génie civil, il était posturologue, kinésiologue, masseur, auteur, compositeur, interprète, artificier, enfin bref.
C'était un personnage flamboyant.
Voilà.
Pour nous qui l'avons connu.
C'était quelqu'un de, voilà, on pouvait pas faire les choses tout de suite avec lui, c'était un drame, quoi. Il vivait tellement vite, il avait tellement la passion de la vie. Et je pense qu'il a eu raison, parce que au moins, il est donc décédé il y a 3 ans, mais au moins il a vécu ses passions passionnément. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose à retenir dans la vie. Et je sais que quand j'ai créé ma société, Éducanin. Il m'a poussé lui-même, il m'a dit « mais c'est bien, t'es indépendante ». C'est pour lui, l'indépendance était quelque chose de primordial, il a toujours été indépendant, même quand il travaillait pour la ville de Genève. Et il m'a donné ce souffle de fierté, de l'indépendance, d'être capable de vivre sa vie sans devoir quelque chose aux autres. Il a toujours dit « on a deux bras, deux jambes, une tête ».
C'est beau ce que tu dis, Catherine, et je suis contente qu'on ait pu lui faire hommage à notre ami René. Alors revenons, si tu veux bien, à nos chiens, parce que c'est ton métier, et c'est aussi ce qui va être tellement utile pour nos auditeurs ce matin. Donc, les chiens, comment est-ce qu'on te contacte quand on a un chien ou un chiot, qu'on vient de l'acheter, qu'on ne sait pas trop comment faire, ou alors que le chien adulte a des comportements que l'on veut corriger ou que l'on souhaite améliorer. Voilà, Comment te contacte-t-on, Catherine? Que fait-on?
Alors, le plus agréable et le plus simple pour moi, c'est d'aller sur mon site www.educanin.ch.
Educanin, donc E, alors comment tu l'écris?
educanin.ch.
D'accord.
On peut chercher aussi, si jamais, sur Google, Éducanin, Catherine Valder, on tombe tout de suite sur mon site, et de m'envoyer un email. Comme ça, moi, je peux contacter les personnes quand je suis disponible. Parce qu'il m'est difficile de répondre au milieu d'une séance de travail.
Alors, c'est important de savoir comment procéder. Donc, toutes sortes de chiens. Ça peut être un tout petit chien, ça peut être un gros molosse.
Voilà.
Toutes sortes de chiens.
Voilà.
Et de tous âges.
Ah ben oui, il est jamais trop tard pour commencer. Et puis,
mais un vieux chien, tu arrives à en obtenir quelque chose?
Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui adoptent déjà des vieux chiens. Et je leur dis bravo. Moi, j'en ai pas le courage pour le moment. Mais oui. Et du coup, tous ces chiens justement de refuge qui sont adoptés à un certain âge, ils ont pris des habitudes. Quand ils sont adoptés, pendant les 48-72 premières heures, il regarde un petit peu comment le maître vit, comment la famille se comporte autour de lui. Il en déduit justement des comportements qu'il va pouvoir adopter, qui vont payer ou pas. Mais petit à petit, il va commencer à montrer qui il est, son vrai visage. Et justement, souvent, au bout d'une semaine, deux semaines, les gens rendent le chien parce que il a développé la possibilité
vrai caractère.
De s'exprimer complètement. Donc, dans tous les cas, plus tôt on s'y prend, mieux c'est.
Alors, c'est surtout important, j'imagine, pour des chiens qui ont vécu quelque temps dans des cages et qui ont été un peu désociabilisés.
Voilà, dans des cages où, justement, on n'a jamais renforcé le côté positif de la cage.
C'était privatif de liberté,
voilà,
plutôt.
Voilà, alors qu'une cage... D'ailleurs, il y a deux termes en anglais. Il y a cage, mais il y a crate. Et le terme est beaucoup plus positif. En français, on n'utilise vraiment que le mot cage, mais les gens, du coup, ils sont très négatifs. Ouais. Alors que moi, je dis toujours la première chose que je dis aux gens, mais vous n'êtes pas obligé de fermer la porte. Ça peut être juste un endroit privé pour l'animal où les enfants n'ont pas le droit de rentrer.
C'est une niche dans le fond.
Mais c'est une niche qui est bien fermée. D'ailleurs, on peut même laisser le haut ouvert. Ça s'appelle un parc.
Alors, pourquoi lui mettre une cage et pas une niche ? Question.
Eh bien, parce que les niches ne sont pas conçues pour pouvoir être fermées au cas où. Et il est bon de pouvoir laisser le chien complètement enfermé pour être protégé, entre autres, des enfants qui ne cessent de déranger le chien quand il devrait rester tranquille.
D'accord.
J'ai même des chiens qui deviennent hyperactifs tellement les enfants les sollicitent. Et finalement, ça devient une maladie.
Ouais. C'est vrai.
Et c'est le chien qui paye. Parce que de toute façon, s'il y a un problème de comportement, quel qu'il soit, c'est toujours le chien qui en fait les frais.
Alors, nous aimons les chiens, n'est-ce pas Catherine ? Sinon, nous n'aurions jamais... D'abord, tu n'aurais jamais eu ce métier. Tu n'aurais jamais développé cette capacité et ce métier. On n'aurait jamais fait cette émission ce matin.
Exactement.
On parle souvent des chiens, toi et moi.
Voilà, parce que merci à toi aussi, justement, de pouvoir prendre des chiens qui sont souvent des dernières chances.
Oui, j'ai recueilli une chienne qui était hyperactive et pas trop de moyens de la calmer. Maintenant, elle se sait aimer. Et je pense que c'est à force d'amour et de calme autour d'elle et de douceur qu'elle est devenue beaucoup plus calme.
Voilà. En tout cas, bravo à toi parce que toi, je sais que tu les adoptes, ces chiens qui ont des parcours de vie difficiles et à tous les gens qui leur donnent une seconde, une troisième chance, bravo.
C'est important.
Il faut avoir...
C'est important.
Alors moi, j'essaye de les aider à ma manière.
Alors, on va écouter maintenant... On va écouter, mais c'est toi qui vas le présenter.
Justement, René Gousset, donc, qui était mon mari, qui est un auteur-compositeur-interprète, avec Sur la Lune.
Alors, on va écouter René Sur
avec
la Lune.
Avec sa voix et ma petite voix derrière.
Et on va se dire, les larmes aux yeux, ma Catherine.
Presque.
Ouais. On va se dire au revoir, Catherine.
À la prochaine.
À la prochaine. Et on va remercier Olivier Steinmetz, qui est notre technicien qui a enregistré cette émission.
Et puis, merci Viviane de m'avoir invitée, de m'avoir permis de parler, parce que les animaux n'ont pas souvent la parole.
Ils l'avaient ce matin.
Merci à eux.
Ils l'avaient ce matin et on écoute René Gousset.
Il est allé là-haut sur la lune pour voir s'il n'y avait pas quelque chose, un reste de plume pour décrire cet endroit beau et magique à la fois. Il est allé là-haut sur la lune pour voir s'il n'y croisait pas un Pierrot, un diseur de fortune, pour parler de cet endroit beau et magique à la fois. Il est allé là-haut sur la lune pour voir s'il n'existait pas un poète, harlequin funambule, pour habiter cet endroit beau et magique à la fois. il est allé là-haut sur la lune. Il n'a rien vu plus que toi. Le Pierrot, l'Arlequin funambule, a gardé secret cet endroit. Oh, il est magique à la fois. Reste sur la terre, regarde la lune, elle ne sourit que pour toi. Rêve encore avec la brume pour imaginer cet endroit.
Oh, magique à la fois.
Oh, magique à la fois.